parce que comprendre les enjeux du bien-être de nos aînés permet de mieux les accompagner, La Pause Santé interviewe des experts de la santé pour vous, auxiliaires de vie, qui êtes au plus proche des personnes âgées au quotidien. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Pause Santé. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à la mobilité des personnes âgées, un véritable enjeu de bien-être. Pour comprendre comment la préserver et la stimuler, je vais interviewer pour vous l'ergothérapeute Marine Bizarre. Marine Bizarre, bonjour. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter aux auxiliaires de vie qui nous écoutent ?
Oui, bonjour. Moi, c'est Marine, j'ai 25 ans. Ça fait 2 ans et demi que je travaille en tant qu'ergothérapeute. J'ai travaillé pendant 2 ans et demi dans un EHPAD en Belgique et là, je suis en centre de rééducation en France depuis quelques mois.
Aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler de la mobilité des personnes âgées. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le rôle d'un ergothérapeute auprès des personnes âgées en perte de mobilité ?
Le rôle de l'ergothérapeute, donc il y en a plusieurs. Ça va être vraiment d'évaluer la mobilité de la personne. Donc, on a plusieurs évaluations pour évaluer au niveau des membres supérieurs, des membres inférieurs. Ensuite, grâce aux évaluations, on va détecter les difficultés des personnes. Donc, on va pouvoir ensuite les entraîner en les mettant dans des mises en situation du quotidien. On va pouvoir les conseiller sur les aides techniques. Donc, plein d'aides techniques qui peuvent les aider dans leur quotidien. Ça peut être des aides à la marche comme des déambulateurs ou d'autres choses comme des outils qui vont les aider à ouvrir des bocaux, les aider à s'habiller, des choses comme ça. Ensuite, quand les difficultés, on ne peut pas trop les entraîner et les améliorer, on va pouvoir proposer des compensations s'il y a besoin. On va pouvoir aussi agir sur l'environnement pour faciliter la mobilité des personnes. Et ensuite, on a aussi un peu le rôle de conseiller. On va pouvoir les conseiller, les accompagner et pouvoir faire de la prévention pour pouvoir préserver cette mobilité dans le quotidien. Et on va être aussi axé sur le logement, donc tout ce qui est optimisé, adapté et aménager l'accessibilité au logement.
D'accord. Est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi c'est important de préserver la mobilité pour les personnes âgées et comment est-ce que ça peut contribuer à leur bien-être général au quotidien ?
Oui, la mobilité, ça va être très important aux personnes âgées pour réaliser, par exemple, tous les gestes de la vie quotidienne en autonomie, c'est-à-dire de faire seul. Et si cette mobilité, elle vient être entravée, ça va vraiment les restreindre dans leur autonomie. Et la mobilité, ça va également leur permettre d'être en forme au niveau physique et au niveau aussi de la santé mentale. Et le but, ça va vraiment être de maintenir cette mobilité pour pouvoir maintenir aussi une indépendance dans leur quotidien. Ça va être bien aussi pour leur valorisation de soi, pour leur confiance en eux, également pour leur qualité de vie, parce que plus ils vont être mobiles, plus leur qualité de vie va être agréable pour eux. Et la mobilité, ça peut permettre aux personnes de se déplacer librement. Donc, il y a aussi l'importance de la notion de liberté et de choix.
En effet, avec l'âge, certains gestes de la vie quotidienne peuvent devenir plus complexes quand on est en perte de mobilité. Quels sont les premiers signes qui témoignent de cette perte de mobilité ? Quels signes peuvent alerter les auxiliaires de vie ?
Alors, il y en a plusieurs. Il peut y avoir juste le fait que dans la réalisation des gestes de la vie quotidienne, ils ont plus de mal, ils sont plus ralentis, ça va devenir plus long et peut-être aussi douloureux. Il y a aussi au niveau de la marche, le ralentissement de la marche, le fait de moins lever les pieds, de traîner les pieds, et d'avoir du coup un risque de chute qui va être augmenté. Donc, en plus du risque de chute, il y a les chutes, parce que moins on a de mobilité, plus on va chuter. Donc, il y en a qui peuvent chuter et ensuite perdre de la mobilité à cause des chutes. Donc, c'est un peu un cercle vicieux. Il y a aussi les pertes d'équilibre, le fait que la personne, elle s'isole socialement parce qu'elle n'ose plus sortir de chez elle parce qu'il y a des choses qu'elle n'arrive plus à faire. Il y a aussi la perte d'autonomie, ne plus faire des choses soi-même, de devoir demander de l'aide aux autres. Et il y a aussi le fait de la notion du poids, donc une personne qui va par exemple perdre du poids d'un coup parce que elle prend plus le temps, elle arrive plus à se faire à manger à cause d'une perte de mobilité, ou par exemple qui ne se lave plus parce qu'elle ne peut plus aller jusqu'à la salle de bain se laver par exemple.
On va revenir sur le risque de chute dont vous avez parlé, qui ne doit pas être sous-estimé, on y reviendra dans un second temps. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez revenir sur les conséquences de la perte de mobilité sur le plan physique et psychologique ? Vous les avez déjà évoquées lors de la deuxième question qui nous rappelait l'importance de la mobilité pour les personnes âgées, mais est-ce que vous pouvez y revenir ?
Oui, il y en a plusieurs. Bon, il y en a que j'ai déjà dites, comme par exemple, tout à l'heure, j'ai dit la perte de poids, mais il peut y avoir aussi une prise de poids. Une personne qui va tout le temps rester au lit, mais ne plus bouger, elle va pouvoir prendre du poids. Donc, c'est quelque chose qui peut nous alarmer et qui est une conséquence de la perte de mobilité. Il y a aussi la perte de confiance en soi, du coup, qui peut entraîner un isolement social, le fait de plus pouvoir faire les choses soi-même, demander de l'aide, ça peut être très dévalorisant pour une personne. Ça peut aussi, malheureusement, entraîner une dépression. Ensuite, au niveau physique, c'est plus au niveau de la peur de chuter. Donc, les personnes vont avoir peur de tomber puisque leur mobilité, elle est moins sécuritaire qu'avant. Il y a aussi des douleurs qui peuvent apparaître. Le fait de devenir dépendant des autres, bah, c'est pas forcément valorisant aussi. La perte de la force musculaire, parce que bah, on va perdre des muscles si on bouge de moins en moins, et le risque de chute qui va être augmenté à cause de cette perte de mobilité.
Ça fait en effet beaucoup de conséquences et on comprend d'autant plus l'importance d'aider les personnes âgées à préserver cette mobilité. Est-ce que vous auriez des conseils pratiques à partager aux auxiliaires de vie pour minimiser le risque de chute?
Oui, le premier, enfin, auquel je pense, ça serait bah, d'aménager le domicile. Donc pour ça, on peut faire appel à un ergothérapeute, collaborer avec un ergothérapeute pour évaluer le domicile et proposer des aménagements. Après, il y a des choses qu'on peut évaluer soi-même, c'est-à-dire le fait d'avoir un bon éclairage dans les pièces où les personnes vivent le plus souvent, d'avoir des choses essentielles près de soi, des chaussures adaptées, éviter d'avoir des tapis à la maison qui peuvent augmenter le risque de chute, avoir une maison qui est bien rangée, libérer tous les lieux de passage. De vérifier que la personne, si elle a une aide à la marche comme une canne, une béquille ou un déambulateur, bah, elle l'utilise et que ça soit adapté. Mais voilà, ça se fait beaucoup en collaboration du coup avec un ergothérapeute. Il y a aussi le fait de proposer une téléassistance, donc c'est d'avoir soit un bracelet, soit un collier où la personne peut appuyer, où il y a un bouton, où elle peut appuyer quand elle chute pour prévenir sa famille ou directement les pompiers ou peut-être l'auxiliaire de vie, je pense que c'est possible aussi. Et bah après, ça, c'est des choses qu'on répète souvent, mais c'est avoir une alimentation équilibrée et favoriser l'activité physique.
Merci beaucoup pour ces conseils pratiques à mettre en place pour les auxiliaires de vie et pour aider les personnes âgées à minimiser le risque de chute. On a beaucoup parlé donc des conséquences de la perte de mobilité si elle n'est pas prise en charge à temps. Il est important de rappeler qu'elle peut être retardée ou limitée si on met en place des bonnes habitudes. Est-ce qu'il y a des solutions qui existent pour ralentir la perte de mobilité?
Mais oui, il y en a plusieurs et c'est un peu ce que j'ai dit. Ça va être un résumé de ce que j'ai dit, mais ça va être tout ce qui est bah, le fait de bien s'hydrater, de pratiquer une activité physique régulière, d'avoir une alimentation équilibrée, d'augmenter sa sociabilité aussi parce que les gens qui vont être tout seuls chez eux, ils vont avoir une mobilité moins bonne que des gens qui vont sortir, avoir des activités extérieures, voir de la famille, voir des amis et avoir un cercle social, aménager le domicile et voilà.
Très bien. Vous avez beaucoup parlé de l'importance de pratiquer un exercice physique. Est-ce que vous pourriez nous recommander des exercices simples que les auxiliaires de vie pourraient pratiquer avec leurs bénéficiaires pour les stimuler?
Oui, pour les activités, il y a le fait d'aller se promener, d'aller se balader avec eux, que ça soit dans la maison, dans le jardin ou à l'extérieur, ça leur fait toujours du bien, que ça soit au niveau mental ou au niveau physique. Il y a aussi le fait de pratiquer de la gym douce, donc c'est souvent de la gym qui est assise sur une chaise et de faire travailler tous les membres un par un et d'y aller doucement. On peut aussi faire des parcours de marche. Nous, c'est ce qu'on fait beaucoup avec nos patients, mais je pense que ça peut se faire aussi à la maison, de marcher dans la maison, d'escalader un obstacle, de faire des slaloms, des choses comme ça. Mais vraiment, le but, c'est de s'adapter aux besoins de la personne, de les laisser faire un maximum de choses tout seul, de les stimuler, au quotidien et de les guider, mais de faire le moins possible à leur place, même si je sais que c'est un gain de temps et que c'est beaucoup plus facile de faire ça. Le plus important, c'est vraiment de les stimuler pour qu'ils soient autonomes. Parce que pour eux, un petit geste, ça va peut-être être quelque chose de très physique et de très fatigant pour eux, comme aller bricoler, aller jardiner. Ça peut faire partir d'une activité physique.
Bien sûr, finalement, chaque geste du quotidien a son importance pour stimuler la mobilité, finalement. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre pour préserver la mobilité si on est une auxiliaire de vie et qu'on a envie de suivre les conseils que vous avez donnés lors de la pratique physique, par exemple? Est-ce qu'il y a des précautions à prendre, des choses à ne pas faire, à éviter?
Bah, la précaution, ça serait avoir en collaboration vraiment avec la personne. Faudrait que le patient en fait soit acteur de cette activité physique, donc de voir ce que lui il aime, ce qu'il a besoin, ses envies, les choses par exemple qu'il a pu faire dans son passé ou qu'il aimerait découvrir maintenant, et de vraiment se baser sur ses capacités et ses incapacités, parce que une personne par exemple qui va être paralysée des jambes, bah, on va quand même pouvoir travailler tout ce qui est au niveau du cou, tout ce qui est au niveau des poignets, tout ce qui est au niveau du haut du corps. Donc il y a toujours une petite façon de travailler, peu importe la pathologie de la personne, et aussi de se fier à sa douleur, de voir bah voilà, où est-ce qu'il a mal, où est-ce qu'il a pas mal, et de vraiment faire des petites séances, parce que c'est souvent des personnes âgées, et de faire de manière progressive, c'est-à-dire un petit peu chaque jour, de ne pas faire une grosse séance et puis les autres jours ne rien faire, c'est vraiment de faire un petit peu chaque jour.
C'est aussi ça des bons conseils à donner, je pense, aux auxiliaires de vie qui ont peut-être des difficultés à motiver leurs bénéficiaires parce que parfois il y a des personnes âgées qui sont un petit peu réticentes et qui n'ont pas forcément envie de faire ces exercices. Est-ce qu'il y a un autre conseil que vous pourriez donner aux auxiliaires de vie pour essayer de motiver leurs bénéficiaires qui n'auraient pas forcément envie de pratiquer ces exercices? Peut-être la communication?
C'est ça. Bah après, il y a aussi la relation de confiance que l'auxiliaire pourra avoir avec son patient. Souvent, quand on est stimulé, motivé par une personne, avec qui on a une relation, avec qui on a de l'affection. Donc c'est beaucoup plus facile parfois avec certaines personnes. Et puis de leur expliquer à quoi ça sert, pourquoi on fait ça, quels seront les bénéfices et quels risques on évite en faisant une activité régulière, et vraiment se baser sur ce qu'ils aiment en fait, parce que on va pas aller faire de la gym à quelqu'un qui déteste la gym. Mais comme je disais tout à l'heure, vraiment, si quelqu'un qui a bricolé dans sa jeunesse et qui aime ça, aller faire une petite activité bricolage, pour lui, ça va être une activité physique intéressante.
On a déjà tout à l'heure parlé d'adapter le logement et vous avez un petit peu expliqué ce qu'un ergothérapeute pouvait faire. Est-ce que vous auriez peut-être quelques ajustements simples à mettre en place pour les auxiliaires de vie qui nous écoutent, qu'elles pourraient mettre en place chez leurs bénéficiaires?
Une importance qui est parfois difficile chez les personnes âgées, c'est vraiment de retirer tous les tapis du sol ou alors les fixer avec un scotch double face ou autre chose. Mais vraiment, c'est ce qui va être très dangereux chez eux. De faire attention aussi à toutes les marches qu'il peut y avoir dans les maisons ou aux escaliers. Donc, on peut rajouter, enfin, demander à soit des compagnies, soit des ergothérapeutes de venir pour pouvoir, par exemple, rajouter des barres d'appui. C'est souvent dans la salle de bain ou dans les toilettes. Par exemple, si les toilettes sont trop basses et que la personne a du mal à se relever toute seule et qu'elle a tout le temps besoin d'aide, on peut rajouter un rehausseur de toilette. De toujours avoir les choses utiles près de soi, donc de réorganiser un peu la maison. On favorise aussi de remplacer les baignoires par des douches italiennes où il n'y a vraiment pas de rebord et où tout est plat. Donc vraiment, l'idéal, c'est d'avoir une maison de plain pied, ou alors, si pas, c'est d'adapter, ou par exemple, les escaliers, de mettre une chaise électrique qui va monter les escaliers tout seul, enfin, pour permettre aux personnes le maintien à domicile, et aussi tout ce qui est au niveau électronique, par exemple, comment dire, pour les fenêtres, au lieu d'avoir des rideaux à tirer, ça peut faire mal aux bras des personnes, d'avoir des volets électriques. En fait, de rendre la maison un peu plus électrique, c'est ce qui se fait en ce moment, c'est de rendre la maison moderne pour qu'ils aient juste à appuyer un bouton et qu'il y ait des choses qui se déclenchent. Par exemple, pour les personnes qui ont des problèmes de mémoire, ça peut aussi aider, pour ne pas oublier certaines choses à faire dans la maison.
Merci beaucoup pour tous ces conseils. Est-ce que vous avez encore un ultime conseil à nous partager ou un mot de la fin pour terminer?
Bravo aux auxiliaires de vie pour le travail qu'elles font, parce que je pense qu'elles n'ont pas beaucoup de reconnaissance, pas assez. Donc bravo, parce que c'est un métier pas évident, mais qui doit être vraiment reconnu. Et ça serait avec plaisir qu'on puisse, nous, en tant qu'ergothérapeute, encore plus collaborer avec les auxiliaires de vie. Ça nous apporterait beaucoup à nous, je pense à elles aussi, et ça serait une chouette collaboration de la faire vivre encore plus.
Merci beaucoup pour ce mot positif pour terminer et merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
Avec plaisir. Merci à vous.
Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode et tout de suite sur le site de Petit-Fils. la-pause-petit-fils.com.